Cette émission est une rediffusion. C'est parti pour une escapade d'une heure à la rencontre de Nantaises et Nantais venus d'ailleurs. Casser les stéréotypes, voyager, éduquer et mettre en avant des parcours singuliers, c'est ce que vous propose notre joyeuse petite bande. Installez-vous bien, Nantaises et Nantais d'ailleurs, c'est maintenant sur Prune 92 FM.
Salut Nantaises et Nantais d'ailleurs. Dans ce contexte particulier, et en attendant de pouvoir vous proposer des émissions dans de bonnes conditions, notre équipe vous propose de réécouter notre émission spéciale « Confinée, venue d'ailleurs » de juin dernier, enregistrée à la sortie du premier confinement. De quoi donner un peu d'espoir de liberté retrouvée. À très vite!
Ça va peut-être pas surprendre les auditeurs, ou peut-être si, mais on parle du confinement, grosse surprise, et les effets de Covid-19. Le lundi 16 mars, le président français annonçait que les déplacements des personnes seraient limités à partir du 17 mars à midi et pour les 15 jours au moins. Cela marque le début du confinement en France et dès le mois de mars, en raison de la pandémie de Covid-19, la quasi-totalité des pays à travers le monde prennent des mesures de restriction d'entrée sur leur territoire, allant jusqu'à la fermeture des frontières, parfois même refusant d'accueillir leurs propres sortissants qui seraient surpris par les mesures pendant leur séjour à l'étranger. Parmi ces ressortissants loin de leur pays, nous pouvons parler des étudiants étrangers en France qui, comme les Français, vivent une situation inédite et cela loin de leurs repères et de leurs proches. Comment vit-on une telle situation dans un pays qui n'est pas le sien ? Comment trouver du soutien émotionnel, un soutien financier pendant que les emplois étudiants sont suspendus? Quel regard portent les étudiants africains sous le traitement médiatique de la crise sanitaire en ce qui concerne leur pays individuellement ou le continent africain en général? Ce sont ces questions, entre autres, qui vont retenir l'attention de notre équipe et de nos invités pendant ce numéro spécial Nantais d'ailleurs de juin 2020. Et des invités, nous en avons beaucoup. Nous avons voulu quand même bien nous entourer autour de la table pour parler de ces sujets relativement polémiques pour certains, en tout cas essentiels pour d'autres. Mais Covid oblige, Patrick n'en dira pas le contraire, séance d'enregistrement à distance, nous faisons avec les moyens du bord. T'es un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, Patrick. Hein?
Oui, je confirme.
Donc, tu disais que voilà, tu vas privilégier la technique à la prise de parole aujourd'hui. Donc,
oui,
c'est moi qui fais.
Je parlerai quand je peux.
En même temps, tu me diras, ça ne change pas grand-chose à d'habitude. Je parle quand même tout le temps.
Voilà.
En tout cas, bonjour à nos invités que vous connaissez déjà. Lassène Oujdi, notre calligraphe attitré maintenant au Nantais et Nantais d'ailleurs. Nous avons aussi Christelle Ocoman, notre architecte que vous avez eu l'occasion de découvrir lors de notre tout premier numéro au début d'année. Nous devrions aussi avoir notre compagnie Blessing que vous avez rencontré au mois de mars dernier. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir un nouveau Nantais d'ailleurs, Jean-Michel Café, en tout cas invité, président de l'Association des étudiants ivoiriens de Nantes. Et bonjour notre cher Patrick, je ne t'ai pas dit officiellement bonjour.
Oui, bonjour Lorraine, bonjour.
Merci, bonjour. Alors tout ça pour dire que les Nantaises et Nantais d'ailleurs, c'est maintenant. I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you would come over, right? Right?
I tried to imagine your reaction. It didn't scare me when the earthquake happened, but it really got me thinking. The night we went drinking, stumbled in the house and didn't make it past the kitchen. Oh, it's been a year now. Think I figured out how to think about you without it ripping my heart out. And I know, you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, you know, we know we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you come over, right? You come over and you stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you come over, right? Sky be falling while I hold you tight. No, there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you come over, right? You come over, right? You come over, you come over, you come over, right? I know, you know, we know you went down for forever and it's fine. I know, you know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you come over, right? You come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you come over, right? The sky be falling while I hold you tight. No, there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you come over, right? You come over, you come over, you come over, right? If the world was ending, you come over, right?
C'était J.P. Sachs featuring Julia Michaels, If the World Was Ending. Donc la chanson est bien appropriée pour discuter aujourd'hui du cœur de ce phénomène qui est le COVID-19 et la frustration qu'on peut ressentir quand on vit dans un pays étranger et que nous sommes loin de nos repères. Et en tant qu'étudiant, c'est encore plus déroutant. Parce que voilà, ce sont des imprévisibilités que nous ne maîtrisons pas, les statuts administratifs ne sont pas forcément clairs pour tout le monde au moment où les administrations sont fermées, et qui de mieux pour en parler que ces étudiants qui sont concernés. Nous reprenons plus spécifiquement sur comment vit-on l'annonce de ce confinement, quelles sont les questions qui nous passent par la tête, et je vais peut-être commencer par Jean-Michel Café, qui est le président d'une association étudiante qui pourra nous présenter par ailleurs. Quels sont les retours que vous avez eus de des membres de l'association et en général, ce que vous avez pu constater? Quelles ont été les réactions à l'annonce du confinement?
Bonjour, je vous remercie pour la question. Déjà, je suis président de l'association ivoirienne des étudiants de Nantes. C'est une association qui tend à prôner des valeurs de solidarité entre les membres et surtout d'entraide. Voilà. Et justement, la situation du COVID-19 était, disons, le moment pour nous de montrer combien de fois nous tenons à véhiculer ces valeurs de solidarité. Et on a essayé tant bien que mal avec les moyens qui nous étaient à portée de main de vouloir de maintenir cette chaîne de solidarité. On a eu plusieurs retours. C'était surtout difficile moralement, mentalement pour ces personnes qui avaient été toujours seules et qui se retrouvaient encore plus seules du fait de mesures de confinement. Et c'était vraiment difficile, mais c'est que par la solidarité qu'on a pu sortir de cette phase assez difficile pour tout un chacun en essayant de...
Et quelques exemples peut-être d'actions solidaires pour qu'on puisse visualiser un petit peu comment ça s'est vraiment passé, c'est-à-dire est-ce que c'était plutôt des appels entre vous pour vous assurer que vous alliez bien mentalement ou c'était plutôt quelque chose de plus, on va dire, tangible et concret comme une assistance alimentaire ou concrètement ça s'est passé comment?
On a eu un peu de tout. On a eu un peu de tout. D'abord, on a essayé de prendre des nouvelles de tout un chacun assez quotidiennement. Tout le bureau s'est mis à la tâche, vu qu'on se connaît quasiment tous. C'est vrai qu'on est assez nombreux, mais on pouvait le faire. Chacun peut appeler 2-3 personnes à son niveau. Après, on a eu plusieurs occasions de faire des aides alimentaires. Par exemple, une fois, avec l'association des frères sénégalais que je tiens à saluer, on a pu, par exemple, recueillir quelques pizzas. Bon, pour ne pas faire de publicité, mais avec...
Désolé. Mais voilà, une enseigne.
Voilà, avec une enseigne. Et ça a permis vraiment de pouvoir partager des pizzas à certains de nos membres. C'est vrai que ce n'est pas vraiment grand-chose, mais ça a pu aider, ça a pu donner le sourire. Et c'était
vrai. Vous savez, la pizza, personnellement, moi, ça me rend très heureuse. Donc, c'est beaucoup. Je tiens à préciser. Après, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore trouvé la formule, mais moi, la pizza, personnellement, ça me rend très heureuse. pour revenir au ressenti, c'est-à-dire, je sais que voilà, le CROUS, par exemple, au moment où le confinement a été déclaré, il y a eu le mail aussi que les étudiants ont reçu en disant, voilà, si vous pouvez rentrer chez vous, n'hésitez surtout pas. Et moi, je me dis, quand les parents habitent en Bretagne, c'est intéressant. Déjà, ce n'est pas évident de juste prendre ses affaires et partir dans un contexte d'imprévisibilité. Mais quand on est étudiant étranger et qu'un billet d'avion coûte entre 400 euros et 800 euros, voire plus, quelles sont les questions qu'on se pose en se disant, ben, est-ce que je prends cette décision de rentrer? Quelles sont les implications concrètement? Est-ce que vous avez pu échanger avec des membres de l'association qui vous ont exprimé ces concerns-là, ces sujets-là dans leur tête? Comment ça s'est passé?
Oui, effectivement, déjà, le premier réflexe, c'est le réflexe d'inquiétude. Voilà. L'inquiétude, parce qu'on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? On est vraiment livré à nous-mêmes en griffe, parce que la difficulté qui se pose là, c'est vraiment un problème qu'il faut pouvoir juguler, parce que lorsqu'on nous demande de rentrer, bah, c'est un peu difficile. On ne sait pas comment faire. Déjà, il y a d'autres même qui avaient peut-être même la volonté de rentrer, mais déjà les frontières étaient fermées et les rares vols qui partaient étaient hors de prix. Et c'était vraiment difficile. Il y a eu d'abord l'inquiétude. Ensuite, moi, j'ai la chance, par exemple, de travailler à côté en tant qu'étudiant au CROUS. Et j'ai pu, par la suite, recueillir plus d'informations à propos. Et il nous a été dit comme ça que c'était pour ceux qui le pouvaient. Et que si vous devez rester, juste signaler que votre présence est toujours d'actualité pendant la période du confinement. Et voilà, il n'y aura pas de problème. Et là, tout après, tout doucement, la température a baissé, moins de pression pour tout le monde. Et voilà, quoi, c'est comme ça que ça s'est passé. Sinon, au début, vraiment, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Il y avait surtout beaucoup d'amalgame parce que certains pensaient qu'on demandait à partir forcément. D'autres disaient non, on peut rester si on le veut. Et voilà, lorsque la lumière a été faite sur la question, ben, tout est rentré dans l'ordre et les gens ont retrouvé plus de sérénité.
Alors, une dernière question là-dessus. Est-ce que vous vivez en cité universitaire? Si oui, ça fait quoi d'être confiné en 9 mètres carrés ou 18 mètres carrés? Ça ressemble à quoi? ça m'intéresse.
Oui, oui. En fait, pour moi, je suis en cité universitaire, effectivement. Je suis dans un 18 mètres carrés. Déjà, moi, je n'ai pas l'habitude d'être tout le temps à la maison parce que je suis très actif. Donc, le fait déjà d'être confiné même dans un palace, c'est difficile pour moi. Et ouais. À fortiori, dans un 18 mètres carrés, franchement, c'est un peu difficile. On se range les pouces. Moi, j'ai encore la chance d'avoir une grande cour dans la résidence où je suis. Du coup, j'essaie de tourner dans la résidence, faire quelques 100 pas vite fait pour se vider un peu l'esprit. Mais c'est quand même difficile d'être dans ces espaces un peu, je vais dire, restreints. Et franchement, ça joue sur le mental. Il faut trouver d'autres moyens de vraiment sortir sans être dehors. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut faire des lectures, qu'il faut essayer de progresser sur les travaux de la fac, qu'il faut essayer d'appeler les gens, il faut essayer je ne sais pas, ceux qui avaient des consoles, tant bien que mal, ils jouaient à la console. Voilà, ça, c'était vraiment un cocktail de distractions qu'on avait essayé de mettre sur place. Et franchement, ça a été difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, ça a été difficile.
Blessing, vous n'êtes pas étudiante, vous êtes plutôt au lycée et vous travaillez toujours à assimiler le français au quotidien. C'est une phase de transition pour vous, vous devez vous habituer à énormément de choses. Nous en avions un petit peu discuté en mars dernier. Comment est-ce que vous avez vécu ce confinement en France?
Nous tous, on sait bien, et le confinement n'était pas facile, c'était vraiment pénible. Et c'est comme un nouveau système de vie, mais tout s'est bien passé et n'a pas été facile, vraiment pas été facile. Pour nous étudiants, faire des devoirs, travailler à la maison toute seule, nos mamans, les devoirs, c'est comme en révision. Devoir à la maison, c'est comme en révision. Après faire le sujet à l'école. Mais pour ces cas, ce n'était pas comme ça. Ils donnent les profs, ils donnent les devoirs, c'est toi qui vas faire. Même si tu ne comprends pas, tu vas faire. Et pour écrire, prof, je ne comprends rien, comment on va faire, comme ça, tout ça, ça prend du temps. Et du coup, si quelqu'un comme nous qui n'a pas quelqu'un qui va dire c'est comme ça, on va faire comme ça en distance, c'était pas vraiment facile, c'était vraiment pénible pour nous. Mais en tout cas, donc, c'était vraiment bien passé. Les profs, ils font le bon, vraiment bon travail aussi, même nous, des élèves, parce que c'est comme ça. Et parfois, rester à la maison, c'est obligatoire de rester à la maison. Tu n'as pas droit pour aller dehors, tu n'as pas droit pour faire des choses, tu n'as pas droit pour dire salut avec des amis, sauf en distance. Même si quelque chose arrive à la maison, comme tu es fâché, tu n'as pas droit pour sortir, et tu vois, c'était vraiment une histoire très pénible, quoi. Mais ça va.
Christelle, vous êtes avec nous aussi? Christelle Okoma,
oui,
vous êtes là?
Oui, je suis là.
Alors, vous n'habitez pas au Crous, par exemple. Comment est-ce que, pour vous, toute cette expérience d'être confinée s'est passée? Est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que vous rentrez chez vous? Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour vous.
Bon, déjà, lorsque j'ai reçu le mail du Crous nous demandant de rentrer, déjà, moi, j'ai intérieurement tout de suite répondu que je ne pouvais pas, parce que je n'avais pas prévu rentrer. Voilà, j'ai aussi vu certains amis, on a parlé de ce mail et nous tous, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rentrer. Donc, du coup, on est resté sur la cité. Après, on a reçu un autre mail du Crous nous demandant, bon, pour ceux qui ne peuvent pas rentrer, peuvent rester, etc. Donc, là, on est resté durant toute la période du confinement en chambre.
D'accord. Donc, vous aussi, vous êtes hébergé au Crous. Je n'avais pas compris ça comme ça, d'accord. Et c'était en 9 mètres carrés aussi?
Oui, c'est ça. C'est ça.
Et vous l'avez vécu comment? C'était... Bon, je moi, demande déjà... parce qu'il y a eu beaucoup de retours de détresse des personnes dans des logements très restreints. Et je me demandais, est-ce que c'était quelque chose qui était très répandu ou pas? Enfin, en même temps, vous n'êtes que trois, mais je m'interrogeais sur cette expérience-là.
Oui. Bon, moi, déjà, la période du confinement, je l'ai bien vécue. Bon, je ne me suis pas ennuyée parce que tout de suite, il y a eu des groupes WhatsApp qui sont créés entre amis. Donc, ça nous a permis vraiment d'échanger, de nous amuser. Franchement, je n'ai pas senti le temps passer.
Le temps passé.
Oui, je suis du genre à avoir beaucoup d'activités, même personnellement, donc je n'ai pas du tout senti le temps passer. Et puis avec les échanges, j'aime beaucoup échanger entre amis, des causeries, des notes vocales, on s'abuse et tout. Franchement, c'était bien. Je n'étais pas dépressive et tout, non.
J'ai comme l'impression que c'est quelque chose de... Il y a quelque chose de toujours très rayonnant chez vous. J'ai comme l'impression que rien ne vous ébranle.
Bon, moi, déjà, pendant la période du confinement, j'ai beaucoup appris à danser. Voilà, donc...
À danser?
Oui, à danser.
Quel j'ai type de danse?
Ah, vous dites?
Tu dis? Quel type de danse?
Tout ça. Non, en fait, ce sont des danses un peu sportives, en fait. Des fitness et autres. Voilà, voilà.
La Zumba ou le Zumba?
Quoi?
C'est féminin ou masculin, Zumba?
Féminin.
Féminin, la Zumba. Vous avez dansé à la Zumba, d'accord, ok. C'est bien.
Et puis, j'ai fait des challenges cuisine et autres. Franchement, c'était bien. Entre amis, ça s'est bien passé. J'écoutais beaucoup de la musique et tout.
Moi, je vous envie, hein, parce que clairement, moi, j'ai ouvert une appli de sport pendant 24 heures. J'ai commencé la moitié de la séance et après, j'ai regardé la séance en mangeant ma glace. Donc, ce n'est pas tout à fait très constructif tout ça. mais c'est très bien. Je pense
moi,
que c'est aussi quelque chose d'assez sympa.
Le confinement.
C'est vrai?
Ouais, j'ai suivi des... Tu sais, le rester en forme sur France 3 le matin. Parfait.
Ah! Eh bien, il y a des gens qui ont vraiment fait quelque chose pendant ce confinement. Moi, clairement, je tournais en rond. Mais Patrick, vous le savez, Patrick, il essayait en plus de m'amener dans des activités, m'a proposé certaines choses en visio. Ouais. Bon, il faut dire comme ça, ça fait bizarre. Non, mais il y avait des jeux.
J'ai essayé de t'inviter à des jeux de rôle en ligne, voilà.
Oui, mais ça ne donne pas non plus, Patrick. Non.
Non,
mais c'était des pièces.
Fantaisie,
voilà,
non, c'est pas mieux non plus.
Oui, mais moi, mentalement, je n'y arrivais pas. C'était quelque chose d'assez éprouvant, je dois le dire. Alors qu'en réalité, tout le monde disait, bon voilà, c'est l'occasion de finir votre thèse, c'est le moment rêvé. Alors que j'ai dit, mais non, mais surtout pas, je tourne en rond, j'ai les idées qui s'embrouillent, c'est quasiment insupportable. Donc ça montre que voilà, il y a un état d'esprit aussi qui peut aider à traverser parfois des moments et qu'il y a certaines personnes qui vivent très bien des situations qui sont très éprouvantes pour d'autres, alors que moi, être dehors toute la journée, à être dans l'effort physique, c'est quelque chose qui pourrait éprouver d'autres et moi j'adore ça, donc c'est bien d'avoir cette expérience assez diversifiée en fin de compte dans les invités, c'est très bien.
Très bien. On fait une pause?
Oui.
Vous êtes à l'écoute d'une rediffusion.
Et oui, je suis désolé tout le monde de couper Iron Maiden, Stranger in a Strange Land. Mais
l'heure avance et j'ai une vidéo à vous faire écouter et nous en parlerons juste après. Oui, je lance ça tout de suite.
Tout dans les foyers, il y a tout âge. Il y a des jeunes de 16, 17, 18 jusqu'à 80 ans. Et toutes ces personnes-là sont mélangées dans des pièces. Pour se contaminer, dans ces cas, c'est très, très facile en fait. C'est très facile. Tout ce qui intéresse les actionnaires, c'est leur argent, leur loyer, le loyer. Payer juste le loyer, le reste, ils s'en foutent. Du coup, que tu sois contaminé, ce n'est pas leur problème en fait. Ce n'est pas du tout leur problème. Parce qu'ils ne donnent pas du tout des informations aux gens. Ils s'en foutent de la situation des gens dans les foyers. Et si on ne cherche pas une solution, le jour où ça va exploser, ça va être beaucoup plus catastrophique que dans les EHPAD. Parce que dans les EHPAD, il y a des infirmiers, il y a des personnes qui prennent soin aux personnes âgées, mais dans les foyers, il n'y a personne qui prenne soin aux résidents à l'intérieur des foyers. Nous, notre souhait aujourd'hui, si l'État arrive, comme a fait le Portugal actuellement, essaie de régulariser toutes les sans-papiers. Du coup, l'État va savoir là où tout le monde est. L'État va pouvoir prendre les mesures pour confiner ces personnes, savoir comment ils se déplacent, là où ils se déplacent, ceux qui sont malades et ceux qui ne sont pas malades. Pour essayer de stopper la propagation du virus à travers de ces personnes.
Vous venez d'entendre Diakité du collectif Gilets Noirs qui lançait un appel à l'État français pour régulariser la situation des personnes sans papier pendant la période de la pandémie Covid-19. C'est une interview qui est menée par le journaliste Filippo Ortona du média indépendant Média TV. D'ailleurs, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de Média TV pour visionner l'interview dans son entièreté. Nous avons ici qu'un bref extrait. En somme, il y avait un appel pour prendre une décision à l'image du Portugal qui avait vu la régularisation des personnes sans documents autorisant un séjour sur le territoire de pouvoir rester au Portugal. Et c'était, selon eux, un moyen pertinent de gérer la crise sanitaire parce que dès lors que l'on sait combien de personnes sont sur le territoire, où elles habitent, il y a une meilleure traçabilité des circulations. En tout cas, c'était la logique qui était défendue. Mais au-delà de l'aspect sanitaire, les personnes étrangères ont aussi été évoquées, dans des dimensions économiques. Nous pouvons par exemple noter que le lundi 30 mars, le préfet de Seine-et-Marne lançait un appel aux réfugiés, donc le mot réfugié était utilisé pour le coup, et ces réfugiés qui vivaient dans des centres d'hébergement pour venir en aide aux agriculteurs qui rencontraient un problème de main-d'œuvre. Et cet appel a par ailleurs fait polémique. Donc, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons discuter de ces sujets-là, de cette gestion sanitaire, mais économique de la crise sanitaire. Juste avant l'interruption de la grille habituelle de Prune, en mars dernier, nous avons accueilli Blessing et Laurence, qui justement venaient parler des mineurs isolés à Nantes, donc des mineurs qui n'ont pas encore de titre de séjour ou d'autorisation de séjourner sur les territoires. Et nous allons un peu discuter de tous ces sujets-là, justement avec Blessing, qui est une de nos invitées. Premièrement, Blessing, tout simplement, je suis tentée de vous demander, que pensiez-vous de cet appel à la régularisation ?
Je pense pour être une bonne idée pour aider les gens. Si c'est le favorable pour les migrants et pour les gens aussi sans papier, parce que aider les gens, et puis deux, il booste l'économie de certains pays, de sept pays aussi. C'est pas la peine pour dire je suis mineur, je suis majeur, ils m'ont payé tout le temps. Tu peux pas payer quelqu'un l'argent toujours, chaque mois. Et après, tu dis allez dehors. Ça, c'est pas bonne idée. Par exemple, tu m'as payé chaque mois. Je suis mineur ou je suis majeur, tu m'as payé chaque mois. ça donne moins quelque chose pour travailler, gagner l'argent de moi-même. Et puis, après un an, tu m'as dit, allez dehors. Ça, c'est pas bonne idée. Et pourquoi j'ai beaucoup de questions, je pose beaucoup de questions, mais il n'y a pas de réponse encore. Pourquoi ça? Pourquoi pas? Je parle pas de documents pour des immigrants, de permis de travail. Donne à quelqu'un, je ne sais pas combien, ils ne m'ont jamais donné de l'argent, je ne sais pas combien. Donne à quelqu'un l'argent chaque mois et après un an, tu dis allez dehors. Nous tous, c'est humain. Réglementation de personnes sans le papier, si c'est favorable pour l'immigrant, oui, ça va. Parce que réglementation, parfois, c'est mauvaise chose, parfois, c'est bonne chose. Mais si c'est favorable pour les gens qui ont vraiment besoin, ça va aller. Parce que il y a des gens qui vraiment voulaient travailler, vraiment voulaient rester ici, qui vraiment voulaient vivre ici, sans entrer son pays, je ne sais pas. Ils ont vraiment besoin des soutiens de ce pays.
Concernant cette question de régularisation des sans-papiers, vous avez senti ça comment? Vous avez une opinion aussi sur la question?
Jean-Michel, peut-être, pour ne pas changer.
Oh. Merci. Pour cette question relativement à la régularisation des sans-papiers, je pense que il y a deux aspects qu'on peut noter. Déjà, il y a un premier aspect qui s'inscrit dans une volonté d'autorité de pouvoir mieux protéger des couches de la société vulnérables vu du contexte actuel qui est vraiment un d'autre part. On peut aussi percevoir dans cette démarche un certain chantage, parce que derrière ces personnes ont été sollicitées. Alors, je vais caricaturer, mais ces personnes ont été sollicitées pour faire un effort de guerre, vu que le président avait dit qu'on était en guerre, effectivement, contre le. Donc, ces personnes ont été sollicitées afin de faire un effort de guerre. En temps, mentalement, si ces personnes se sentent tenues par ces armes qu'on avait plutôt prises, elles vont même aller sans se rendre compte ou même sans même évaluer le risque réel de d'exposition virus ou risque réel de contamination. Et je pense que si on veut dans une démarche sincère et réelle de régularisation vis-à-vis du précis qui est le COVID-19, il faudrait le faire mais sans contrepartie ou sans contrepartie immédiate. Là, c'est le point que je puisse dire à ça. Et je pense que on observe toujours une voix plus claire.
Donne alors, il y a une petite coupure, je suis désolée Jean-Michel, je profite de cette petite coupure parce qu'on risque d'avoir des problèmes techniques à la suite.
En effet, ce que je propose, c'est que je vais lancer de la musique et je vais travailler sur le problème technique en espérant que ça marche mieux quand on reviendra.
Vous êtes à l'écoute d'une rediffusion.
C'était Mala Djoubé, portée disparue. Ça nous amène quand même à une réflexion un peu plus importante de dire est-ce que si des gens avaient disparu pendant cette période de confinement, c'est-à-dire les personnes les plus démunies, les personnes les plus défavorisées, les personnes SDF, si elles avaient vraiment disparu de cette période où chacun était vraiment dans la préoccupation vitale de survie, est-ce qu'on s'en serait aperçu? Et aussi une approche assez dédaigneuse parfois des individus ou parfois même de tout un continent que nous avons pu constater pendant toute cette pandémie de COVID-19, ce qui nous amène naturellement à cette troisième partie de l'émission qui porte sur ce fameux débat. Et alors que, à mon avis, le débat ne devait même pas avoir lieu à ce niveau-là, en France ou ailleurs, le débat la polémique qui avait éclaté après une discussion en plateau entre un médecin et un chercheur à la télévision, qui suggérait de tester en Afrique un vaccin contre le coronavirus en disant s'il pouvait être provocateur, ne devrait-on pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, ou chez les prostituées qui sont hautement exposées? Je me dis que c'est l'occasion de donner la parole aux personnes principalement concernées, c'est-à-dire des Africains. Pour le coup, ce ne sont pas des Français d'origine africaine, ce sont des Africains qui vivent en France. Peut-être lancer Jean-Michel tout d'abord sur la question. Comment avez-vous accueilli, déjà, peut-être que le mot même accueillir n'est pas approprié, comment avez-vous vécu cette polémique et l'existence même de ces débats?
Merci pour la parole. Disons que face à ce débat ou cette polémique, comme vous avez dit, d'abord c'était le choc de voir encore que en ce temps-là, il y a des personnes qui pensent encore que l'Afrique est un laboratoire à ciel ouvert. C'est quand même dommage. Et ensuite, au-delà de l'émotion que cette polémique pouvait susciter en chacun de nous, il y a aussi une prise de conscience. Une prise de conscience qui doit se faire au niveau de la communauté scientifique africaine. L'heure est, pour moi en tout cas, l'heure est vraiment à l'union. L'union derrière le progrès scientifique. Parce que si on est vraiment vu avec tant de dédain, traité avec tant de dédain, avec cette magie, bien parce que paraissons aux yeux du monde comme le petit canabou. Et je crois que il faudrait vraiment ne plus faire dans l'émotion face à ce genre de propos. Certes, c'est des propos qui sont de nature à indigner tout un peuple, et c'est des propos qui ne doivent plus jamais être tenus. On le sait. Par contre, on doit aussi prendre conscience de notre place et travailler pour que nous soyons vraiment perçus comme aussi un fer de lance de la science. Et tant que cela ne sera pas fait, il y aura toujours des incartades de certains individus qui se prennent pour des gens qui sont peut-être un but de qui ont peut-être la science infinie, qui savent tout, mais je pense que si on devait tester la science du coup, on a commencé dans les touchés qui étaient jusqu'alors et qui demeurent la zone la moins touchée. Voilà.
Justement, la zone la moins touchée, on en parlait avec Christelle en préparant cette émission. Vous avez un petit peu un avis relativement similaire. Comment vous l'avez entendu cette polémique et ce genre de propos?
Bon, d'abord, cette vidéo était vraiment sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parlait. Donc là, lorsque je suis tombée sur la vidéo, bon, franchement, j'ai été choquée. J'ai été choquée des propos utilisés. Et il y a eu aussi un relais. Tout le monde en parlait. Mais après, en fait, j'ai cru entendre qu'il y avait des médecins européens qui devaient utiliser ce vaccin-là aussi, parce qu'eux aussi, ils étaient plus face à la maladie. Donc, les médecins européens devaient utiliser ce vaccin et ils ont proposé aussi de l'utiliser en Afrique. Donc, je me suis dit, si les médecins européens l'utilisent, bon, nous aussi, on pourrait l'utiliser. Parce que moi, le souci, en fait, moi, je pense que c'est la faute à nous, les Africains. Moi c'est ce que je pense. C'est la faute à nous, les Africains. Parce que déjà, on a plein de maladies. On a la polio, le paludisme. Mais on ne va jamais se lever pour pouvoir créer quelque chose pour nous. Donc, si des Européens créent un vaccin et qu'ils veulent l'essayer en Afrique, moi, je pense que c'est notre faute. Déjà, le monsieur, les thèmes utilisés n'étaient pas appropriés. Ça, je le reconnais. Parler de prostituées et autres, ce n'était pas approprié. Mais il faut que nous-mêmes, les Africains, il faut qu'on s'associe, il faut qu'on puisse créer quelque chose. Parce qu'en Europe, on n'a pas le paludisme. C'est en Afrique qu'on a le paludisme, mais on ne va jamais se lever pour pouvoir créer un vaccin pour nous. Donc, moi, je pense que la faute, c'est aux Africains.
Alors, vous faites référence à créer quelque chose et ça me fait penser au débat qui existe actuellement sur une boisson qui a été créée au Madagascar et qui aurait des vertus, justement, qui serait peut-être même, selon les dires, un vaccin contre le COVID-19. Pourquoi j'ai eu un petit sourire, ce n'est pas contre le vaccin malgache, parce que je n'en sais rien d'ailleurs. C'est plutôt le débat qui en a résulté qui me fait un petit peu sourire parce que il y a toute une considération de dire est-ce que les composants d'un vaccin qui se vend en boisson peuvent être efficaces contre le Covid. Et aujourd'hui, on a toute une crise au niveau de l'OMS parce que le Madagascar a quitté l'OMS en disant qu'il y a eu un mépris européen pour le vaccin malgache, alors que tout le monde sait aussi que les herbes ou les extraits végétaux qui sont utilisés dans les produits pharmaceutiques européens sont aussi issus de ces mêmes herbes-là. Donc il y a eu une forme de remise en question même de la provenance des extraits de produits qui en fin de compte servent à énormément de produits pharmaceutiques. Moi-même, je suis perdue sur ce débat-là, mais effectivement, il y a eu des initiatives, mais ces initiatives n'ont pas été prises au sérieux. Vous voulez rajouter quelque chose avant éventuellement que je passe la parole à Jean-Michel?
Moi?
Oui, Christelle.
J'ai pas, en fait, su le produit malgache. En fait, là, je me suis pas vraiment trop renseignée, mais je pense que l'OMS avait demandé les composants de ce produit. Je pense bien. Voilà, donc moi, je me dis, avant d'utiliser un produit, c'est normal de connaître les composants du produit parce que ça peut aller avec X, mais ne pas aller avec Y. Donc, c'est bon de pouvoir déterminer les composants de ce produit pour voir si tout le monde peut l'utiliser.
Donc, vous n'étiez pas hostile à une tentative d'expérimentation dans ces cadres-là?
En fait, nous, les Africains, en fait, ce que j'ai dit, on attend que l'Europe puisse produire, on attend que l'Europe puisse essayer le produit, et quand ça marche, et puis maintenant, nous, on tend la main. C'est ce que, en fait, je n'apprécie pas, en fait, chez les Africains. C'est-à-dire, les Européens créent le vaccin, eux-mêmes, ils essaient. Quand ça marche, ouais, les Africains sont là maintenant. En fait, c'est ce que je n'apprécie pas. Nous-mêmes, il faudrait qu'on crée un produit, l'essayer chez nous, et quand ça marche, le proposer aussi aux autres, mais surtout avoir les composants du produit et puis être sûr que ça puisse marcher avec tout le monde.
Voilà, en fin de compte, sur ça, vous vous retrouvez avec Jean-Michel sur le fait de proposer un vaccin aussi qui serait en provenance d'Afrique et proposer aux Européens. Oui. Jean-Michel, vous voulez rajouter peut-être quelque chose par rapport à ce débat-là ou cet échange-là?
Oui, merci. Relativement à la question du remède malgache, moi, je pense que tout le tohu-bohu qui en résulte est assez symptomatique du mépris, je vais dire, de la communauté internationale de tout ce qui pourrait être un produit africain ou un produit d'origine africaine. On est bien d'accord que chaque médicament, chaque traitement à ses origines dans les plantes, comme vous avez dit tout à l'heure, les et la médecine qu'on considère comme la mère de la médecine moderne était une médecine purement basée sur des extraits végétaux, sur des plantes et tout, qui étaient absorbées, on absorbait les décoctions et c'était fini. Et si on trouve ce chemin aujourd'hui face au coronavirus sur le continent africain, pense qu'il aurait été plus judicieux de la part de l'OMS, surtout s'intéresser au processus de ce remède-là, plutôt que de voir ce remède comme, je ne sais pas, quelque chose qui vient en porte-à-faux avec sa vision.
Permettez-moi de vous interrompre, c'est qu'effectivement, nous avons le problème technique et je veux redonner la parole à la scène qui lui aussi rencontrait des problèmes techniques. On va essayer de voir si c'est un peu mieux de son côté pour l'instant. J'ai l'impression d'être une journaliste sportive. Nous allons maintenant passer... oui, alors Jean-Michel, de l'autre côté. Mais effectivement, ce sont les aléas par rapport à l'enregistrement à distance. La scène, nous allons tenter une nouvelle fois. Vous, comment est-ce que vous avez entendu ce débat-là, ou en tout cas cette polémique-là, vous l'avez vécu comment ?
Je parle de l'expérience marocaine, par exemple, ou par exemple, parce qu'au Maroc, il y a des Africains qui ont formé leur médecin au Maroc, par exemple, à ce propos. Il y avait même une association qui a porté plainte contre le chercheur français par rapport à ce qu'il a dit. Donc, il me semble que COVID-19 est un marqueur et aussi permettre peut-être de revoir les choses autrement. Pas qu'au niveau de la science, au niveau de la philosophie aussi. Et pourquoi on parle toujours de la philosophie européenne, pourquoi n'y a-t-il pas une autre philosophie qui n'y est ailleurs, par exemple? Pour moi, c'est tout ça. C'est un peu normal. C'est un peu normal qu'il y ait des débats parce qu'on n'a pas, en tout cas ici, on n'a pas encore dépassé cette image-là. On n'a pas encore, n'est pas encore convaincu finalement de l'homme, on n'a pas encore défini les droits de l'homme, c'est comme universel. Parce que ce qu'on constate, en vérité, c'est les droits de l'homme, c'est pour l'homme. Non. Désolé pour. Je suis un peu dur, mais c'est un peu la réalité.
Mmh. Mais on a l'impression que la qualité revient au fur et à mesure, on va saisir l'occasion. Et vous, par exemple, est-ce que vous pensez que le COVID... Apparemment, l'Académie française dit qu'il faut dire la COVID, d'ailleurs, la COVID-19.
Oui, ils ont donné des raisons bien... tu peux trouver plein d'exceptions. Et tout le monde dit le COVID, donc on va rester sur le COVID.
Mais en fin de compte, à un moment, je pense que ça deviendra le COVID, parce que c'est un peu comme le H de haricot, ou je ne sais plus. Bon, maintenant, on peut dire les haricots. Au bout d'un moment, je pense que le langage aussi, c'est le parler qui l'emporte parfois sur l'Académie, je pense.
Normalement. De plus en plus, enfin, parce qu'elle est... Ouais, bref.
Voilà. Je pense que dans la tendance, c'est ça. Je ne vais pas dire que l'Académie devrait prendre sa retraite. Ce n'est pas le propos. mais effectivement, la scène, vous pensez que le COVID ou la COVID-19 est en réalité une opportunité aussi d'émancipation intellectuelle pour les Africains ?
Parce que côté ça permet aussi de voir, je regarde par exemple, je vois de près les gens de la marge, comment ils sont organisés, une solidarité naturelle qui s'est manifestée. Je vois dans les quartiers, dans mon quartier par exemple, je vois les associations d'Africains qui en place des visites pour les Africains. On voit des jeunes même du quartier qui sont organisés pour donner des aides pour la population et proposent de l'aide pour les gens isolés. Je le vois de l'autre côté aussi, plusieurs associations ont manifesté pour aider les gens. Et aussi cette notion de l'État, en fait, qui revient en force. Comme vous savez, au Maroc, je parle de l'expérience toujours marocaine, qu'au Maroc, le confinement, c'était sévère. Et en même temps, ça a permis de limiter les victimes, le nombre de victimes. Donc, à ce propos, il y a d'autres, en fait, il y a une certaine vis-à-vis de fonctionnement de l'État. Il y a aussi des propositions. Il y a des gens qui ont innové. Il y a des gens qui ont créé des alternatives, en fait. Ce que je vois comme occasion de ce fait-là, et de conscience aussi, le cerveau africain peut finalement produire quand il y a un besoin. Il ne faut pas attendre les conditions, il faut répondre aux besoins avec ce qu'on a.
J'aurais presque envie de terminer là-dessus, c'est-à-dire que pour moi, c'est un message tellement positif que Patrick, on est d'accord.
Ah oui, là, c'est... On pourrait le mettre sur les t-shirts après.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on va caler noter d'ailleurs avec des droits d'auteur d'Hassan. L'Afrique a des solutions.
Le calligraphie aussi.
Ah, mais voilà. En plus, avec la calligraphie de la scène. Que demande le peuple ? Et justement, en arrivant sur l'Afrique a des solutions, je vous propose de faire une petite pause musicale avec Salif Keita, Africa. Et oui, chers auditeurs et auditrices, c'est déjà la fin. Et pas qu'un peu, puisque je disais tout à l'heure, c'est le tout dernier numéro des Nantaises et Nantais d'ailleurs pour cette première saison. Pas d'inquiétude, normalement, Nantaises et Nantais d'ailleurs reviennent l'année prochaine. On va tout faire en tout cas pour que ce soit le cas. Nous, nous avons eu énormément de plaisir à vous amener rencontrer ces Nantais d'ailleurs, ces Nantais d'adoption et ces Nantais de cœur tous les jours que l'occasion nous était présentée. Patrick, c'est un réel plaisir de travailler avec toi.
Eh ben, avec toi aussi.
Tellement bien, je dis toujours. tu veux peut-être dire un petit mot aux auditeurs.
Oui, passez des bonnes vacances, tous ceux qui peuvent. Je pense que nous avons établi que la nantitude est bien répandue dans la population de Nantes. Et c'en est une bonne chose. Voilà.
On va faire des t-shirts nantitude, hashtag oui, Patrick.
Hashtag nantitude, tellement.
Et justement, c'était l'occasion aussi d'inclure tous nos invités dans ce petit au revoir. Donc, il me reste à remercier La Seine, Jean-Michel, Blessing et Christelle d'avoir pris le temps de parler avec nous et de dire au revoir pour cette première saison ensemble avec nous. Patrick, c'est mon acolyte préféré. Kouka, je t'aime tout autant et t'es loin de nous parce que tu es occupé à faire plein d'autres projets. On te salue et on espère te revoir l'année prochaine auprès de nous. En attendant, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver le podcast de toutes nos émissions sur le site www.prune.net. Au revoir et moi je dirais à très vite.
Patrick. Au revoir. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime.